Chapitre 6. Une âme de patriote. C'était à la tombée du jour, quelques instants avant que le soleil disparût dans les vapeurs violettes de l'ouest, qui baignaient déjà la ligne d'horizon de l'Atlantique, les Pierres Noires, Béniguet, Ouessant, toutes les îles du Grand Effroi. Ces derniers rayons, d'un rouge de feu, vinrent envelopper et frapper deux silhouettes humaines, réfugiées dans cette mystérieuse cachette, creusée en demi-cirque gazonné, aux deux tiers de la hauteur de la falaise, presque au bout de la pointe des Pois, et qu'on désigne à présent dans le pays sous l'appellation de la Salle Verte. Alors nul sentier praticable n'y conduisait, comme de nos jours. Les contrebandiers à peu près seuls la connaissaient, et les gardes-côtes n'osaient s'y aventurer, par superstition, croyant que les âmes des noyés s'y donnaient rendez-vous ainsi qu'au Voroc. C'est bien vrai, Yanou, que vous avez toujours gardé bon souvenir de moi et que, malgré ce qui nous sépare encore, vous n'êtes pas devenu un ennemi pour votre petite naïque d'autrefois ? Assise sur un bloc de rocher, à l'extrême bord de l'abîme au fond duquel bouillonnaient incessamment les longues lames écumeuses qui y formaient de dangereux remous, Anne de Couetrozec, de sa voix harmonieusement timbrée, questionnait, levant ses yeux brillants sur lui, un jeune officier debout devant elle et dont les prunelles, éperdues de joie et d'admiration, s'abaissaient avec une émotion profonde sur les siennes. « Si c'est la vérité, mademoiselle, pouvez-vous en douter ? Tenez, jamais je ne vous ai oublié, bien que tant d'années et tant de choses se soient passées depuis la dernière fois que je ne vous ai vue. Je vous revois toujours si mignonne, si gentille avec moi, voulant bien admettre en votre société, associer à vos jeux le pauvre gamin sauvage que j'étais, et lui faire fête, et l'accueillir comme s'il était votre égal, de votre rang, de votre race. » Une certaine âpreté scandait les derniers mots du jeune homme, perçant à travers la tendresse des paroles, tandis qu'il redressait sa tête fière, secouant autour de son front blanc, de ses joues un peu maigres et d'une pâleur mate, des cheveux bouclés d'un noir luisant qui accompagnait avec grâce sa physionomie énergique et retombait sur le col de son uniforme d'artilleur de la marine. Petit, robuste, admirablement proportionné dans sa taille au-dessous de la moyenne, ses membres vigoureux moulés par le drap fin de sa tenue de sous-lieutenant, il se campait hardiment, le buste rejeté en arrière et mettant en valeur sa large poitrine, confiant dans sa force, dans sa jeunesse, semblable à ces indestructibles rochers de la Cornouaille que battent vainement depuis tant de milliers d'années et peut-être de siècles toutes les fureurs de l'océan. Ses yeux noirs eurent une flamme, ses lèvres s'embrasèrent d'un sang plus vif, quand il ajouta orgueilleusement « C'est cela qui m'a encouragé, soutenu, poussé dans la voie que j'ai choisie. Et si aujourd'hui Jean-Marie Yanou, le pauvre petit pêcheur camarétois, le fils du modeste, humble et héroïque matelot Yves Yanou, mort pour la patrie, est officier dans l'artillerie de marine, s'il peut voir s'ouvrir devant lui l'avenir et aspirer au plus haut grade, comme un Marceau, un Hoche, un Augereau, un Moreau et tant d'autres, c'est en grande partie à mademoiselle de Couetrozec qu'il le doit. Il s'en souviendra toujours. Aussi sa reconnaissance demeurera-t-elle éternelle pour celle qu'il considère comme sa véritable bienfaitrice. » Il termina d'une intonation où le respect s'alliait à une tendresse exaltée. « Ma vie lui appartient tout entière. Le jour où elle me la demandera, je la lui donnerai sans hésiter, comme je la donnerai à la patrie. » Les paupières demi-fermées, pour masquer l'émotion qu'elle ressentait et éteindre les lueurs de ses prunelles, la jeune fille se laissait doucement pénétrer par ces protestations qui l'emplissaient d'un ravissement délicieux, en même temps que d'un étonnement croissant. Il lui fallait faire un effort pour se dire qu'elle ne se trompait pas, et que celui qui l'assurait ainsi de son dévouement absolu était bien ce Jean-Marie Yanou qui avait passionnément pris parti pour toutes les idées nouvelles, poussé par son sang indépendant de camarétois, mais se mettant ainsi en désaccord avec la plupart des siens, principalement avec ses cousins les Troidec, restés partisans de la royauté, avec sa grand-mère, Monique Kervella, la fidèle et dévouée servante des Couetrozec. Elle se le rappelait, tel qu'elle l'avait vu pour la première fois, à Paris, dans leur grand hôtel du Faubourg Saint-Germain, où on les avait mis en présence, elle âgée de 4 ans à peine, lui ayant juste 5 ans. Dans son costume breton, il lui avait en effet semblé un vrai sauvage, avec le désordre de sa chevelure ténébreuse autour de cette figure pâle où brillaient des yeux inquiets, effarés, lui donnant l'air de quelque petit animal pris au piège. Malgré cela, elle avait su très vite l'apprivoiser, le faisant courir avec elle dans le jardin de l'hôtel, lui prêtant ses jouets, et ils s'étaient quittés bons amis. Mais déjà la révolution commençait à gronder, et lorsqu'ils s'étaient retrouvés quelques mois plus tard, en Bretagne, dans le château de Couette-Rozec, voisin des Monts d'Arrée, de graves préoccupations pesaient déjà sur les maîtres de cette superbe propriété, enveloppée de grands bois, et on les avait laissés absolument seuls, sans autre surveillance que celle de Monique, encore assez alerte, bien qu'elle approchât de la soixantaine. Ça avait été leur meilleur temps. Au château, Anne jouissait d'une liberté qu'elle ne connaissait pas dans les beaux salons et les chambres dorées de Paris, où elle devait déjà s'accoutumer à la toilette, s'habituer aux grands airs pour se trouver un jour digne d'aller à la cour. Ici, en pleine campagne, elle devenait elle aussi une petite sauvage comme ce camarade de jeu, dont la force, la hardiesse l'émerveillaient et qui se prêtait avec une infatigable complaisance à toutes ses fantaisies. La dernière fois qu'ils se rencontrèrent, ce fut en 1793, au moment du départ du comte et de la comtesse pour l'émigration en Angleterre. Lui avait 8 ans, elle près de 7 ans. Ils ne devaient plus se revoir enfant. La vie les emporta dans ses tourbillons, chacun d'un côté différent, vers des destinées opposées, pour les replacer brusquement l'un en face de l'autre, après les avoir entièrement transformés, avoir jeté en eux tous les éléments du dissentiment le plus complet pour des desseins qu'ils ignoraient. Certes, les quelques rencontres d'enfance du petit Jean-Marie avec la fille des Couette-Rozec avaient été trop passagères et de trop peu de durée pour le pénétrer des idées auxquelles était aveuglément soumise sa grand-mère, cette Monique Kervella qui, nourrice du comte Huon, avait fini par se considérer comme étant de la famille de ses maîtres, partageant leurs douleurs, leurs joies, leurs ressentiments et leurs convictions. À Camaret, où les idées d'indépendance et de liberté semblent faire partie du sol, et où, à part peut-être les seuls Troadec, inféodés aux vieilles suggestions seigneuriales, influencés probablement par leur parenté avec Monique, tous les habitants devaient accueillir avec enthousiasme le changement de régime qui remplaçait la monarchie par la République. Le jeune Yanou avait trouvé, dans l'exemple donné par son père, une puissante raison d'accepter, lui aussi, avec ferveur, les principes de la Révolution. Il n'avait que 10 ans, lorsque le 13 prairial an 2, ou 1er juin 1794, l'escadre, sortie de Brest, depuis le 8 prairial, sous les ordres de l'amiral Villaret-Joyeuse, assistée du représentant du peuple, Jean-Bon Saint-André, après plusieurs jours d'escarmouches et de combats partiels, engagea la bataille décisive avec la flotte anglaise. Yves Yanou était, comme canonnier, au nombre des 723 hommes composant l'équipage du vaisseau Le Vengeur, commandé par Renaudin. Si 267 de ses camarades purent échapper au désastre qui anéantit ce navire, il fut de ceux qui s'abîmèrent au fond de l'océan, en lançant héroïquement une dernière fois aux Anglais le cri de « Vive la République !» La République ! En mémoire de son père, Jean-Marie Yanou jura de se consacrer à elle exclusivement, de vivre, de combattre, de mourir pour elle. La République ! À partir de ce jour, à dater de cette mort glorieuse, il se voua à elle tout entier, se promettant de travailler pour arriver à venger celui qu'il avait perdu et à devenir savant pour mieux mériter de cette patrie qui le prenait corps et âme. C'était, sans trop s'en rendre compte au début, par une sorte de révolte instinctive contre l'ancien assujettissement du peuple par la noblesse, par un désir de prouver qu'il pouvait, lui, petit pêcheur obscur, s'élever, que, le souvenir de sa petite amie d'autrefois le poursuivant de temps à autre, il avait peut-être mis encore plus d'ardeur à exécuter et à faire réussir son projet. Ce qu'il voulait, c'était sortir de la classe inférieure, où il semblait destiné à végéter, pour faire de son nom un nom de gloire, un nom qui attira les regards, et pouvoir ainsi opposer à un titre de naissance, à un titre de noblesse, un titre conquis par le travail, un titre triomphal pour celui qui le porterait, l'ayant gagné lui-même. Il avait mis tout l'entêtement de sa race à poursuivre le plan qu'il s'était tracé, après avoir reconnu que, en ce moment, le métier militaire semblait la seule carrière qui lui permît de réaliser en peu de temps le rêve conçu par lui. Devant ses regards éblouis, ne cessait de miroiter le mirage des rapides et brillantes fortunes faites par ces humbles enfants du peuple, rivaux heureux des officiers de l'ancien régime et dont les noms sonnaient maintenant comme des fanfares victorieuses sur toutes les lèvres. D'abord, la marine l'avait attiré par goût, par atavisme, mais il s'était bien vite persuadé que de ce côté il aurait beaucoup plus de peine à arriver en se souvenant de la persistante inimitié qui divisait, même encore à cette époque, les officiers sortis du rang et ceux qui appartenaient à la noblesse, les officiers bleus et les officiers rouges. Sans doute, la distinction avait disparu en apparence, mais elle subsistait dans le fond, et son désir d'arriver ne lui permettait pas d'attendre. D'un autre côté, son amour d'enfance pour la mer le retenait près d'elle. Il ne pouvait se décider à se séparer de cet océan qu'il avait toujours bercé. Ce fut ce qui le décida à essayer de concilier son intérêt avec son goût, son ambition avec ses préférences, et à choisir l'artillerie de marine où il pouvait faire rapidement et brillamment son chemin. À force de travail, de zèle, d'intelligence, il marcha si promptement que, avant d'avoir 20 ans, il obtenait son brevet d'officier et qu'il pouvait espérer avoir enfin franchi le premier échelon, le plus difficile peut-être, qui devait l'aider à sortir de l'humble condition où il végétait autrefois et lui permettre d'aspirer aux plus hautes destinées. Mais en se donnant à la République, il s'était donné tout entier, avec la fougue, l'enthousiasme qu'il mettait dans toutes ses actions, et son âme d'ardent patriote n'avait pas été sans souffrir des événements qui modifiaient peu à peu, d'une manière de plus en plus sensible, le premier élan donné par la Révolution. De Brest, où il grandissait dans le culte sévère et intransigeant des principes républicains tels qu'ils avaient été établis à l'origine, il voyait avec une colère sourde, un mécontentement croissant, les modifications graves et continues que les maîtres actuels du pouvoir faisaient subir à son idéal. Une personnalité surtout l'inquiétait, après l'avoir d'abord attiré et fasciné. C'était celle de ce petit Corse obscur, ce général Bonaparte, qui s'élevait sans cesse, prenant un ascendant si extraordinaire sur tous ceux qui l'entouraient. Il avait le premier applaudi à ses victoires, acclamé ses triomphes, voyant en lui une des grandes figures de la République. Puis, après le retour du héros de l'expédition d'Égypte, il lui avait paru démêlé dans la conduite du général des allures suspectes, dangereuses pour le maintien du gouvernement qu'il aimait. À Brest, cette méfiance était entretenue chez lui par ceux qu'il fréquentait, parmi lesquels beaucoup d'admirateurs, de partisans, d'amis du général Moreau, qu'on jugeait sacrifié, mis de côté. Le vainqueur de Hohenlinden avait été pour lui le type le plus pur du héros. En outre, sa naissance à Morlaix en faisait un compatriote, le rapprochait de lui, lui permettait d'établir des termes de comparaison pleins d'encouragement, d'espérance pour son propre avenir. Il épousa mystérieusement les rancunes de Moreau contre Bonaparte, avec la violence passionnée qui bouillonnait en lui, ne lui permettant de rien faire à moitié. Désormais, Bonaparte fut le danger, l'ennemi, Moreau la victime, l'ami. Seulement, tout cela n'existait encore en lui qu'à l'état latent. Comme engourdi par la monotonie de l'existence de chaque jour, ne se trahissait que dans des causeries avec ses camarades, dans des boutades plus ou moins énergiques, sans qu'il semblât jamais devoir rien en résulter de plus grave, et sans qu'on pût le soupçonner de devoir passer de la théorie à l'action. Né à Camaret, connaissant admirablement la configuration de la presqu'île de Crozon, il était choisi de préférence à ses camarades de l'artillerie de marine chaque fois qu'il était nécessaire de visiter ou d'inspecter les batteries de toute cette partie de la côte. De plus, sa haine contre les Anglais, qu'il rendait responsable de la mort de son père, assurait ses supérieurs du zèle farouche, presque vindicatif, avec lequel il devait veiller à ce que tout fût en état pour bien recevoir l'ennemi, si jamais ce dernier risquait quelque tentative sur ce point. Aussi, tous les hommes attachés à ces batteries, semée de distance en distance, depuis la presqu'île de Roscanvel jusqu'à la baie de Douarnenez, le connaissait-il particulièrement et lui était-il entièrement dévoué? Ayant la même origine qu'eux, il se montrait sans aucune morgue dans ses rapports de chef à inférieur, les traitant en camarades, en amis, se donnant à eux comme exemple pour le cas où, chez certains, l'ambition eût été en rapport avec les capacités, avec l'intelligence, et il leur répétait souvent « La révolution nous a affranchis. Grâce à elle, vous pouvez tout désirer, tout espérer, si le cœur vous en dit et si vos vertus vous le permettent. » On l'aimait, on l'écoutait, et on eût suivi aveuglément tout ordre apporté par lui, sans en discuter l'origine. Chaque fois que Jean-Marie Yanou venait en tournée à Camaret, après avoir successivement inspecté toutes les batteries disposées de proche en proche, en suivant la configuration mouvementée des côtes, depuis la plage de Trérouze près Quélerne, avoir vu la batterie de Rigonou à l'entrée du port, celle de Rochemont au Lannic, avoir visité la tour de Camaret et ses 13 pièces, il continuait par le Grand Gouin, le Toulinguet, Penhat, Penhir, et terminait invariablement par Kerloc, où un retranchement sur l'anse de Dinan défendait le débouché vers Camaret. Là, il s'arrêtait longuement et demandait l'hospitalité à sa grand-mère, Monique Kervella. Parfois, elle le reconnaissait, l'admirait dans sa belle tenue d'officier, toute fière de lui. D'autres fois, sa mémoire, restée dans les ténèbres, ne pouvait le retrouver, et elle lui parlait comme à un visiteur inconnu. La surprise de Yanou fut extrême, un jour, en poussant la porte sans façon, de se trouver en face d'une jeune fille dont le visage d'une finesse merveilleuse, les yeux et les cheveux noirs, la tournure fière le frappèrent d'admiration. Ce n'était assurément pas une paysanne, et, après un mouvement instinctif pour se reculer et se cacher, elle était restée comme rassurée, le regardant. Il balbutia « Monique n'est pas là ?» Mais près de la fenêtre, le rouet ronronnait toujours, et la vieille voix usée et tremblotante l'accompagnait, apportant à son oreille, à son cœur, des syllabes connues, éternelles, les mêmes qui avaient bercé son enfance, celles-là aussi qui berçaient autrefois les premiers mois de la vie de la descendante des Couët-Rozec, et qui avaient endormi et consolé Huon de Couët-Rozec tant de fois dans le temps passé. « Tout oui, Clala, mon petit enfant !» Il sourit joyeux, s'exclamant « Bonne grand-mère !» Presque malgré elle, Anne de Couët-Rozec s'écria, le contemplant avec une expression étonnée et heureuse. « Jean-Marie !» Elle se reprit, rougissante. « Monsieur Yanou ?» Le jeune officier l'examinait, délicieusement surpris, et peu à peu, en ses prunelles largement ouvertes, c'était comme aux profondeurs d'un abîme ténébreux, un flambeau qui remontait d'un très loin passé, apportant à sa mémoire une lumière de plus en plus vive, jusqu'à ce qu'il interrogeât, hésitant, n'osant le croire. « Vous seriez... Non, c'est impossible !» Attirée par la chaleur de cette exclamation, Monique Kervella avait cessé de chanter. Un rire léger joua dans les mille plis de sa face décolorée par les ans, et une phrase glissa de ses lèvres. « Mon Jean-Marie, ma petite Naïque, je suis heureuse comme autrefois, tous deux ensemble. » Yanou semblait en extase, murmurant, les mains tendues devant lui. « Mademoiselle Anne de Couët-Rozec ?» Elle alla à lui, simplement, presque naïvement. « Votre camarade d'enfance, votre camarade aujourd'hui, toujours comme avant ?» Tout le passé lui remonta du cœur au cerveau avec une violence qui le suffoquait, et à l'admiration, au ravissement de la revoir, se mêlait une sorte de satisfaction orgueilleuse à se sentir reconnue, avouée par cette petite amie des jeunes années qui venait à lui du premier élan, comme s'ils ne se fussent jamais quittés. Une gratitude infinie épanouissait son âme, le disposant d'avance favorablement pour la jeune fille, dont le séparait tant de préjugés de race, de caste, de pensée. Enfant, jamais cette préoccupation n'avait même effleuré son esprit. Jeune homme, elle n'avait plus cessé de le hanter, le poussant à tenter, à force de travail, d'énergie, de franchir cette distance. Cependant, il ne pouvait prévoir que le hasard la replacerait en face de lui, alors qu'il la jugeait loin de France pour toujours. Il n'eut d'abord même pas la pensée de se demander comment il se faisait que, elle, l'émigrée, se trouvât là, lorsque tant de circonstances, de raisons devaient contribuer à la tenir éloignée de la terre natale, ni comment et pourquoi surtout, c'était chez sa grand-mère qu'elle avait cherché un refuge. Ce ne fut que plus tard qu'il y songea, quand déjà son cœur, son être ne lui appartenait plus, repris par celle qui avait été la camarade de ses jeux et qui, comme autrefois, mais pour des raisons différentes, reprenait sur lui tout son pouvoir, plus impérieux, plus tyrannique encore. Désormais, l'officier d'artillerie de marine provoqua les prétextes pour se faire envoyer constamment en mission à Camaret, alléguant tantôt un motif, tantôt un autre. Il affirmait la nécessité qu'il y avait à surveiller plus fréquemment, à entretenir et à modifier dans l'intérêt du pays les batteries côtières, surtout en ce moment où les Anglais, furieux des préparatifs énormes faits par le premier consul au camp de Boulogne, pouvaient tenter une diversion et tomber à l'improviste sur les côtes de Bretagne, qu'ils devaient supposer moins bien gardées. Et l'intimité entre Jean-Marie et Anne avait grandi, et leurs pensées se pénétraient chaque fois davantage, si liées à présent, si difficiles à rompre, que la jeune fille osa enfin tenter l'aveu décisif, celui qui devait, ou bien transformer son ancien petit compagnon en irréconciliable ennemi, ou bien le lier définitivement à elle, d'un lien que, seule, la mort, et peut-être une mort tragique, pourrait trancher. C'était si grave, cette détermination suprême, que longtemps elle l'avait écartée, remettant toujours à une rencontre suivante la question qui bourdonnait sur ses lèvres et qui précipiterait brusquement les événements. Depuis quelque temps, ils avaient pris l'habitude de se voir et de causer ailleurs que dans la maisonnette de Kerlock. Non pas que la présence de Monique Kervella fût un danger pour les projets à former, mais parce que, poursuivant son but, Anne de Couëtrozec s'attachait à étudier elle-même tous les détails de cette côte qu'elle ne connaissait pas et qu'il lui serait utile, à un moment donné, de posséder à fond. Ceci la confirma dans la conviction de l'utilité qu'il y avait pour sa cause à s'assurer le concours du jeune officier. Avoir la déférence, ou mieux, l'engouement des canonniers et des gardes-côtes pour lui, il était clair que Yanou serait toujours maître d'en faire, s'il était besoin, ce qu'il voudrait et qu'il lui obéirait, non pas seulement avec passivité, mais avec enthousiasme. Si l'on pouvait l'avoir pour soi, on aurait donc, du même coup, la haute main sur toute la presqu'île de Crozon, la facilité d'y débarquer des armes, des munitions et même des groupes d'émigrés. La presqu'île prise, Brest serait aisément tournée, bloquée, enlevée et le pays soulevé. Cependant, désireuse de conserver son incognito et de dépister les curiosités, Anne ne s'aventurait pas au hasard. Ce n'était jamais que dans des endroits peu accessibles, souvent dangereux et étranges, de préférence les jours de brume ou aux heures troublantes de crépuscule, de demi-clarté qu'elle se risquait sur les falaises. En outre, nul ne connaissait ses traits, et elle s'enveloppait toujours de la fameuse mante déchiquetée de Monique, la chauve-souris. Rompue aux exercices physiques, grâce à l'existence qu'elle avait menée en Angleterre, elle escaladait sans vertige les rochers les plus escarpés, comme le Grand Dahouet, qu'un étroit pont de roc sépare de l'extrême pointe de Penhir. Mais le rendez-vous préféré était cette inabordable salle verte, aussi bien défendue par son mauvais renom que par la difficulté de ses approches, et où il se trouvait cette fois-là au jour mourant, dans le dernier embrasement du soleil couchant, dont les rayons avaient fini par trouer vers l'ouest tout un après-midi de brouillard. « Et si ce jour était venu ?» déclara la jeune fille, répondant à la protestation de dévouement de son compagnon. Il poussa un cri de joie, et toute sa vie se donna dans sa réponse. « Ce serait vrai ? Que faut-il faire pour le prouver ?» M'aider à renverser le premier consul. Il eut un sursaut, comme ébloui par cette proposition qui allait, au fond de son cœur, caresser sa plus secrète pensée, et murmura d'une voix concentrée « si vous saviez comme je le hais pour le mal qu'il a fait à tout ce que j'aime, pour tout celui que je le soupçonne de vouloir faire encore, vous comprendriez que ce n'est pas un sacrifice que vous me demandez là. » Et sourdement, tandis que les ténèbres s'abattaient, les enveloppant lentement, il fit « Cette république pour laquelle mon père est mort, il veut l'étrangler. Cela ne sera pas. Je ferai tout pour qu'elle ne succombe pas sous Bonaparte, le premier consul, le dictateur, le tyran. Faites de moi ce que vous voudrez. Je vous appartiens tout entier pour le salut du pays. » Anne songeait, pensive, en jetant sur ses épaules la mante protectrice. « Le salut du pays, moi aussi je le rêve, mais pas de la même manière. Qu'importe, agissons toujours, nous verrons plus tard. » Et l'émigré, la royaliste, plaçant sa main blanche dans la main robuste du républicain, du roturier, sembla unir contre l'ennemi commun leurs deux volontés si différentes, leurs deux désirs si opposés. Elle conclut. « C'est entendu. Je vous mettrai en rapport avec mes amis. Vous amènerez les vôtres et nous marcherons ensemble. » Subissant à la fois le charme du souvenir, la grâce de la jeune fille et l'impérieux espoir de sauver la République en danger, il gravit avec elle le sentier invisible qui les conduisit sur la falaise, au milieu de blocs épars. Ils l'atteignirent au moment où la nuit se faisait complète, glissèrent mystérieusement à travers la lande, coupant le faible rayon de lumière s'évasant de la fenêtre du poste des gardes-côtes, et disparurent. Poulmic causait avec le Gall. Il aperçut la rapide apparition et se signa, balbutiant « La chauve-souris ». Des ombres se dessinèrent dans la lueur, l'une grêle et petite, l'autre colossale, trébuchant à chaque pas, et une grosse voix gronda « Encore manqué, diable de pays, on s'accroche les pieds dans des tas d'affaires. Je m'y casserai une jambe si ça continue. Bah, j'ai vu quelque chose, moi, c'est que la chauve-souris n'était pas seule et qu'elle se fait accompagner par un officier. Hé hé, camarade, c'est du nouveau, cela. En attendant, entrons nous réchauffer un instant au corps de garde. Nous aviserons plus tard à trouver un moyen de faire causer cette Kervella. » Parfait l'Espervier et Étienne Ridolin pénétraient dans la demeure des gardes-côtes.